La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors la dernière fois, nous étions en Turquie pour y rencontrer Bedia Müvahit, une pionnière du cinéma née en 1897. Nous en avons profité pour dire quelques mots sur une femme qui a fait avancer la cause des femmes, une érudite, femme de lettres turque, née elle en 1884, comme vous le voyez, sa date, et nommée Halide Edip Adivar. Puis je vous ai présenté une autre femme turque, une actrice, qui a participé au développement de la culture de son pays, celle-ci nommée Nehir Nehir. Et enfin, un petit tour en Tunisie nous a fait rencontrer Haïdé Chikli, à la fois actrice, scénariste et chroniqueuse dans les journaux. Alors aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui va être l'objet de notre intérêt et les créatrices allemandes au cinéma. Alors, il semblerait que la première de ces femmes à s'être investie dans le cinéma allemand se nomme Thea von Arbou, et non pas d'Arbou, ne confondez pas, qui est née en 1888. Elle a d'abord débuté sa carrière en étant comédienne de théâtre de 1906 à 1914, et paraît-il poussée par les nécessités économiques. En effet, sa famille, d'origine noble, eut quelques déboires financiers. Aussi, sa carrière de comédienne lui permettra de se produire dans plusieurs grandes villes allemandes pour gagner sa vie. Et c'est ainsi qu'elle rencontrera son premier mari, Rudolf Klein Roge, lui-même faisant partie du milieu puisqu'il était acteur de théâtre et metteur en scène. Bon, ce qui facilitera certainement, on peut le supposer, l'implication de Thea von Arbou dans le milieu. Alors en parallèle, elle se tournera vers l'écriture de romans et de fiction, et c'est en partie, toujours au début de sa vie, par nécessité économique. Et elle commencera à éditer à partir de 1910 et publiera en 1913 des ouvrages qui tournent autour de la femme et de sa condition dans la société, et par rapport aussi à l'histoire, aux faits historiques. Alors je traduis en français les titres, La guerre et les femmes, puis en 1915, La femme allemande dans les guerres mondiales. Alors les titres, comme vous l'entendez, sont plutôt explicites sur le contenu des ouvrages. Alors il paraît que dans l'un de ses romans publiés en 1917, intitulé Le temple assiégé, elle aborde les milieux de la comédie et le passage pas toujours si facile, ou plutôt difficile, de l'état de comédien de théâtre à celui d'acteur de cinéma. Et au cinéma, elle adaptera d'ailleurs dans ses scénarios nombre de ses romans, mais aussi les œuvres littéraires d'autres écrivains. Alors on parle de son implication dans le cinéma de Weimar, où elle fut, paraît-il, l'une des figures les plus influentes. Alors qu'est-ce que le cinéma de Weimar ? J'ai essayé de voir un petit peu comment vous le résumer. Le cinéma de Weimar est en lien avec le régime politique allemand qui se met en place en 1918 après la Première Guerre mondiale et qui a aussi été appelé la Révolution allemande, c'est-à-dire que l'Empire allemand, qui était une monarchie parlementaire, fut remplacé à coup de mutinerie par la République. Et cette république fut donc mise en place juste après la Première Guerre mondiale et validée par la première constitution démocratique adoptée en juillet 1919 dans la ville de Weimar, justement. Et celle-ci durera jusqu'en 1933. Alors, qu'est-ce qu'elle a de qu'a de particulier ce cinéma dans cette période dite de Weimar ? Or, c'est un cinéma qui arrive après la défaite et après les légitimes traumatismes causés par la guerre, ce qui fait que la période après-guerre est chaotique, difficile. Le cinéma s'appuie sur un mouvement important que j'avais abordé à la Voix des Arts lorsque je cherchais à expliquer quels étaient les différents mouvements artistiques liés à une époque et un contexte. Et à cette période, j'avais abordé l'expressionnisme qui est né en Allemagne au tout début du XXe siècle, lequel est issu d'une contestation, d'un mal-être, des peurs aussi des créateurs vis-à-vis de l'avenir. Ceci témoin de leur temps et dont l'intuition sur ce qui se passait les angoissait par rapport à cette guerre qui approche. Ce qui se traduisait en peinture, par exemple, par une amplification du morbide, avec des déformations de la réalité, plutôt avec une accentuation des couleurs et des formes. Et en effet, avec la déformation de celle-ci, pour insister sur l'effet délétère, et tout ceci, vous l'avez bien compris, faisant écho à un émotionnel excessif, dépressif, angoissé la plupart du temps. Et c'est un art que moi je qualifierais de psychanalytique. Alors je vais aussi m'appuyer sur une définition du Larousse qui lui présente l'expressionnisme. Alors je cite « comme une tendance artistique caractérisée par une vision émotionnelle et subjective du monde qui s'affirme notamment dans le premier quart du XXe siècle ». Alors il est également question d'expressionnisme dans différents modes d'expression artistique, le théâtre, la danse et la musique expressionniste dont le compositeur autrichien Arnold Schönberg serait le représentant le plus éloquent car il a développé un nouveau style de musique qui prenait forme début XXe siècle et qui va révolutionner le monde musical, qui petit à petit fera sortir la musique du conventionnel et du traditionnel. Alors ce sont des tonalités nouvelles qui vont apparaître, contrastées et des harmoniques déformées. Et cette écriture musicale très expressive, qui sera reprise par d'autres musiciens, permettra de créer un climat particulier, propice à la valorisation d'un émotionnel intensifié, parfois et même souvent inquiétant, et donc notamment angoissé et angoissant. Alors Arnold Schönberg, pour continuer sur cette lancée, a développé et mis au point ce qui est appelé le dodécaphonisme, qui est une méthode de composition avec 12 sons, dont l'utilisation particulière ouvre sur des possibilités nouvelles. Alors on évoque également la musique atonale, la musique sérielle, tant de techniques qui seront mises au service de l'expressionnisme en musique. Et Arnold Schönberg a révolutionné ainsi son époque, et il aurait dit d'ailleurs, et je cite, j'ai fait une découverte qui assurera la prédominance de la musique allemande pour les 100 années à venir. Alors, je vous propose de faire l'expérience d'une musique dite expressionniste grâce à une composition de Alban Berg, un compositeur allemand qui vécut de 1885 à 1935. Il s'agit d'un extrait de son opéra intitulé « Vosek », du nom d'un soldat traumatisé qui, en outre la violence de la guerre, subit celle de la société avec ses conventions et dont l'équilibre mental vacillera, puisqu'il sera tellement affecté qu'il en arrivera à tuer sa maîtresse de qui il eut un enfant. Et cet opéra est tiré d'une pièce de théâtre écrite par l'écrivain et scientifique allemand Georges Büchner, drame lui-même tiré d'un fait réel. Alors, c'est un extrait qui met en scène Marie, sa maîtresse. Jesus, aber schon. Au cinéma, l'expressionnisme s'exprime au travers d'une recherche justement de la plus grande expressivité possible. La démesure est de mise, les ambiances sont inquiétantes, ouvrant ainsi la voie au cinéma fantastique. Et dans ce sens, les décors, les costumes, les expressions des corps, des visages, et notamment au temps du muet, font l'objet de recherches pour créer un climat qui sort de la réalité et impressionne. Alors un film qui a marqué l'époque, film muet bien sûr, car réalisé en 1920, et qui est considéré comme le film expressionniste par excellence, réalisé par l'Allemand Robert Wien, est intitulé « Le cabinet du docteur Galligari ». Alors pour vous décrire un peu le contexte, c'est dans un climat inquiétant, sans vie, qu'est mis en scène un docteur nommé Galligari, également directeur d'un asile où l'un des fous, manipulé par ledit docteur, évolue dans une attraction foraine. Et il se trouve mêlé à des meurtres qui se succèdent. Alors la peur est présente, souvent élément clé. Bref, c'est la joie, comme vous pouvez vous en rendre compte. Alors d'autres films encore, certains utiliseront le symbolisme, comme dans Le Golem réalisé en 1920 par Paul Wegener et Karl Böse, qui met en scène un rabbin magicien qui, pour protéger son peuple, fabrique un personnage monumental en argile, porteur d'une parole de vie que le rabbin inclura dans la statue. Et celle-ci va s'animer, mais malheureusement, peut-être pas tout à fait dans le sens espéré par le rabbin. Alors, il y aura aussi, entre autres films, bien sûr, le fameux Nosferatu le vampire, film d'horreur réalisé en 1922 par Friedrich Wilhelm Murnau, dont j'avais aperçu gamine à la télé quelques images, qui m'avaient si bien impressionnée qu'elles sont encore gravées maintenant dans ma mémoire. Alors le réalisateur allemand bien connu Fritz Lang aurait lui aussi été influencé par l'expressionnisme, même si, paraît-il, selon mes lectures, il s'en serait défendu. En tout cas, il réalisera en 1927, avec la collaboration de son épouse, qui n'est autre que notre scénariste Thea von Arbou, un film de science-fiction inspiré du roman, de son roman de Thea von Arbou, et intitulé Métropolis, qui annonce un monde divisé en deux classes bien distinctes, les riches, les nantis situés en haut de la ville et qui utilisent et manipulent les pauvres situés en bas de la ville. Bon, ce n'est pas là très original, ça campe bien ce qui peut se passer dans la réalité, s'est passé et pourra encore se passer. Hélas. En tout cas, c'est un film qui a utilisé des effets spéciaux impressionnants. Et je vais vous relater un peu l'histoire qui a lieu dans une mégalopole ultra-moderne où évoluent des classes sociales que l'on voit en action. Et le film montre également les tentatives de certains pour mixer un peu les deux classes. Et de plus, pour corser le problème, plus que pour l'arranger, un lien amoureux va se créer entre le fils du dirigeant de Métropolis, donc le nanti, avec une femme de la ville basse. Alors on peut imaginer que la suite du film ne sera pas de tout repos. Or c'est un film muet en noir et blanc qui dure bien 2h30 et qui a mobilisé un très gros budget, ce qui fit scandale à l'époque. Mais ce qui n'a pas empêché, ou peut-être a favorisé, le fait que le film fut reconnu plus tard comme une œuvre majeure du cinéma allemand. Ce qui tombe bien, car j'ai trouvé pour illustrer mes paroles la musique du film Métropolis, composée par Gottfried Huppertz, et je vous propose maintenant d'en écouter un passage. Thank you. Alors, revenons à Théa von Arbou, qui entretint également une collaboration professionnelle étroite avec Fritz Lang pour quelques films. Fritz Lang, né en 1890, est donc un réalisateur autrichien qui, avec son mariage avec la scénariste, s'est approché de l'Allemagne, mais pour plus tard partir aux États-Unis et se faire naturaliser américain. Or, qui ne connaît pas Fritz Lang, à la filmographie importante et réputée pour ses films plutôt inquiétants, mystérieux, dont ce fameux Métropolis, qui a contribué à sa célébrité et qu'il réalisera en 1927 en collaboration avec sa femme, qui adaptera pour le film le livre qu'elle avait écrit. Et c'est en 1919 que Fritz Lang débutera dans la réalisation de films muets. Et il y en aura évidemment bien d'autres auxquels sa femme participera activement, notamment grâce à ses romans qu'elle adaptera pour les besoins du film. Et elle fut d'ailleurs sa scénariste attitrée jusqu'à ce qu'il émigre en 1933 aux États-Unis. Alors, pour citer quelques films de Fritz Lang auxquels Théa von Arbou participera en tant que scénariste, il y eut Le docteur Mabuse, Le joueur, film en noir et blanc de 1922, suivi d'autres docteur Mabuse, l'un en 1933 toujours réalisé par Fritz Lang et intitulé Le testament du docteur Mabuse. Film qui a été repris en 1962 par un autre réalisateur nommé Werner Klinger, mais toujours avec la collaboration de Théa von Arbou. Or, dans la filmographie de Fritz Lang et de Théa von Arbou, je citerai encore Les Nibelungen, film en deux parties réalisé en 1924 et inspiré d'une légende germanique du Moyen-Âge, thème qui avait également inspiré le compositeur allemand Richard Wagner pour son opéra. Et il y eut aussi en 1928 un film d'espionnage, mais toujours muet, intitulé Les Espions, puis en 1929 La femme sur la lune, adapté du roman de Théa von Arbou et d'autres encore, dont le fameux M le maudit, film noir, reconnu comme un chef-d'œuvre du cinéma allemand, inspiré par des faits réels lorsque la terreur planait sur la ville en raison des crimes d'un tueur en série d'enfants. Alors, Théa von Arbou n'a pas écrit des scénarios que pour Fritz Lang. D'ailleurs, l'année 1933 signe la fin d'un mariage et d'une collaboration artistique, puisque Fritz Lang part aux États-Unis. Elle poursuit en tout cas sous le Troisième Reich une belle carrière en tant que scénariste avec les cinéastes en vue de l'époque comme Joseph von Bakke, Hans Steinhoff ou Erich Engel, pour les citer. Et sa production sera très importante, entre 65 et 70 scénarios de films, le tout pour ses différents réalisateurs, y compris Lang, ou comme au début des années 20, pour Friedrich Wilhelm Murnau, qui lui est considéré comme l'un des maîtres du cinéma expressionniste. Et elle aurait même réalisé en 1934 deux films intitulés, je le dis en français, « Elisabeth et le fou » et « L'ascension d'Anneless ». Mais malheureusement, je n'ai aucune information à vous apporter sur ces films. Apparemment, ces films n'ont pas marqué le cinéma allemand. Enfin, sa réputation sera quand même quelque peu compromise, dépendant du soutien qu'il semblerait qu'elle ait apporté au parti nazi. Ceci dit, elle continuera de publier et d'écrire des scénarios. Elle donnera également des conférences à Berlin dans les années 50. Pour terminer, je vais dire bêtement et prématurément sa vie, en 1954, à l'âge de 66 ans, d'une hémorragie interne causée par une chute, paraît-il, devant un cinéma. Enfin, quoi qu'il en soit, elle fut reconnue comme une femme dont le talent a participé à promouvoir le cinéma allemand. Eh bien, nous allons nous arrêter ici avec Théa von Arbou pour nous retrouver bientôt. Et nous poursuivrons notre chemin à la découverte du cinéma allemand et de ses créatrices. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.